Bonjour et bienvenue à l'appel trimestriel de l'APEM des parties prenantes de l'ICANN. Je suis Brad White, directeur de communication de l'ICANN pour l'Amérique du Nord. Avant de commencer, je vais faire quelques commentaires rapides. Vous aurez sans doute remarqué que cet appel a lieu à 3h du matin UTC, ce qui est bien plus tard que l'heure à laquelle on a tenu nos appels trimestriels préalables. Cela est dû au fait qu'on a des participants de partout dans le monde et donc on essaie de changer l'heure de ces appels pour mieux communiquer avec toutes les parties prenantes de partout dans le monde. D'ici quelques semaines, notre prochaine réunion publique de l'ICANN, la 57e réunion, commencera le 3 novembre à Hyderabad en Inde et on voulait donc mieux desservir la région Asie-Pacifique dans cet appel. Dans l'appel aujourd'hui, nous allons également entendre une mise à jour de la région Asie-Pacifique. L'appel durera à peu près une heure et l'ordre du jour sera le suivant. Nous commencerons par une présentation du président, Yoran Marby, président et PDG de l'ICANN, par la suite une mise à jour du conseil d'administration par Bruce Tompkins, l'un des administrateurs, une mise à jour de politique par David Olive, vice-président principal pour le soutien au développement des politiques, qui nous parlera également de la participation d'Istanbul. Adel Akplogan, vice-président de l'engagement et de la participation technique, nous présentera également cela. Nous aurons une mise à jour de la gestion de Teresa Swinehart, vice-présidente principale de la stratégie multipartite et des initiatives stratégiques. Une mise à jour de la région Asie-Pacifique par notre vice-président du Centre de participation des parties prenantes et directeur principal du Centre de participation Asie-Pacifique, Jia Rongluo. Par la suite, une mise à jour financière par Xavier Calbès. Et une fois qu'on aura conclu les présentations, on aura sans doute le temps pour vos questions, s'il y en avait. Si vous participez à distance en ligne, veuillez s'il vous plaît saisir votre question dans la caisse qui dit « Présentez vos questions ici ». Si vous êtes connecté à travers le téléphone, veuillez presser étoile 3 et l'opérateur va vous ajouter à la liste d'intervenants. À ce point-là, je noterai que bien que cet appel a lieu en anglais, il est traduit en simultané en 6 autres langues, espagnol, français, chinois, russe, arabe et portugais. Donc si vous participez à travers un des canaux linguistiques, c'est pareil, étoile 3. Si on n'a pas le temps, ou si vous avez d'autres questions à la fin de l'appel, veuillez les envoyer par mail à l'adresse engagement@icann.org. Cette session est enregistrée et tous les liens et matériels vont être publiés sur le site web de l'ICANN. Vous trouverez également le lien pour accéder à ces enregistrements dans la caisse d'Adobe Connect qui s'appelle Notes. Dernièrement, je vous rappelle de mettre vos ordinateurs et vos téléphones en muet et cela dit, je vous présente le PDG de l'ICANN, Yoran Marby. Yoran prend la parole. Merci Brad. Je voudrais d'abord vous remercier tous de tout le travail qui a été fait. Le 1er octobre, le contrat entre l'ICANN et la NTIA, l'Agence nationale des télécommunications, a trouvé son échéance. Et comme vous savez, cela n'aura pas d'impact sur les utilisateurs, puisqu'ils ne verront pas de changement ou de différence au niveau de leur utilisation de l'Internet. Au sein de l'organisation ICANN, nous sommes engagés avec notre mission révisée et avec les statuts constitutifs qui ont été adoptés pour la pré-transition, ainsi qu'avec le reste de notre travail. J'ai reçu différentes questions. Comment fonctionnera cette ICANN après transition? Nous avons des mécanismes de reddition de comptes qui ont été mis en place pour renforcer l'ICANN dans l'ensemble. Ces améliorations vont habiliter la communauté Internet mondiale pour agir si elle n'est pas d'accord avec les décisions prises par l'organisation de l'ICANN et par le conseil d'administration. Mais ça ne s'arrête pas là. L'organisation de l'ICANN s'efforcera d'être plus responsable et plus transparente. Dans la poursuite de la piste de travail 2, beaucoup des questions et des sujets qui sont d'intérêt dans le domaine des droits de l'homme, de la juridiction et de la responsabilité des organisations de soutien et des comités consultatifs seront abordés. J'ai vraiment envie de voir quels ont été les progrès faits au sein des différents sous-groupes au cours de la prochaine réunion à Hyderabad le mois prochain. L'organisation de l'ICANN en ce moment m'a donné l'opportunité ou l'occasion de penser à l'organisation, le conseil et à la manière dont nous soutenons la communauté. Cette organisation est composée de 3 organes, la communauté de l'ICANN, l'organisation de l'ICANN et le conseil d'administration de l'ICANN. vous, en tant que participant de la communauté de l'ICANN, définissez les politiques et conseillez. Le conseil d'administration révise et adopte ces politiques et puis indique à l'organisation de l'ICANN de les mettre en œuvre. L'idée est de pouvoir garantir que nous allons opérer en conformité et dans le cadre de nos nouveaux statuts constitutifs et dans la portée de notre mission révisée afin de pouvoir mettre en œuvre ce qui est prioritaire pour vous en tant que communauté. Comme vous aurez vu, nous avons modifié légèrement l'équipe exécutive et je voudrais mettre en valeur le nouveau rôle de l'officiel de plainte qui recevra, enquêtera et répondra à toutes les plaintes concernant l'efficacité de l'ICANN en tant qu'organisation et qui sera responsable de tous les systèmes et mécanismes de gestion de plaintes au sein de l'organisation de l'ICANN. Je désignerai quelqu'un pour occuper ce rôle qui devra répondre directement à John. Cette personne travaillera de près avec le médiateur Herb Wayne. Cela dit, je vais maintenant donner la parole à Bruce Duncan qui va nous raconter un peu sur quoi s'est penché le conseil d'administration ce dernier trimestre. Merci. Bruce prend la parole. Merci, Yuran. Du point de vue du conseil d'administration, nous voudrions également présenter ce qui a été réalisé dans le cadre de la transition de l'ICANN. Lors des réunions récentes, le conseil d'administration a approuvé les étapes pour établir les identifiants techniques publics, les PTI, qui opéreront la fonction IANA et a également approuvé le transfert des marques commerciales déposées et du nom de domaine IANA pour... Et cela a été cédé à l'IETF. Le rôle du conseil d'administration est maintenant de gérer la mise en œuvre des nouveaux statuts constitutifs et d'assurer que leur mise en œuvre respecte les attentes de la communauté. Le conseil discutera de cela avec chaque groupe de parties prenantes lors de la réunion publique de l'ICANN en Inde. Au nom du conseil d'administration Yuran, je voudrais également remercier encore une fois tous les bénévoles de la communauté et le personnel de l'ICANN qui ont travaillé de manière acharnée pour se préparer pour la transition et pour préparer l'organisation pour cette transition. Je parlerai maintenant de l'atelier du conseil d'administration que nous avons tenu à Bruxelles entre le 15 et le 17 septembre. Le conseil d'administration a donc tenu l'un de ses ateliers habituels à Bruxelles en septembre, où nous avons discuté de la précision du rôle du conseil d'administration et de l'ICANN en tant qu'organisation pour pouvoir choisir les emplacements des différentes réunions. Certaines des questions principales donc, qui ont été discutées dans le cadre de cette réunion étaient d'une part, comme je viens de dire, cette question de préciser le rôle du conseil d'administration et de la sélection de l'emplacement des différentes réunions. Et en termes généraux, l'organisation ICANN sélectionnera les emplacements pour les réunions suivant un ensemble de critères qui comprennent le respect de ce déplacement dans les différentes régions géographiques. De temps à autre, selon les besoins, il pourrait être nécessaire de changer l'emplacement d'une réunion dans un délai très court et le conseil d'administration à ce moment-là, devra décider s'il est nécessaire de changer l'emplacement de cette réunion. Mais une fois que cette décision aura été prise, le personnel et le conseil décideront d'où cette réunion doit être tenue. Il faut savoir, bien sûr, qu'il est difficile de trouver l'équilibre entre les villes qui peuvent accueillir les réunions de l'ICANN, vu qu'on sait que les réunions de l'ICANN comprennent un nombre de séances en parallèle, donc il nous faut beaucoup de salles. D'autre part, il faut que cet emplacement sélectionné soit convenable, qu'il soit facile d'obtenir des visas et de s'y rendre, et qu'il s'agisse également d'une ville qui encourage les nouveaux participants à rejoindre la communauté de l'ICANN en tant que contributeurs réguliers. Bien sûr, on espère qu'il y aura de plus en plus de personnes qui puissent se joindre à notre organisation à travers ces efforts. Une autre question que nous avons discutée lors de notre atelier à Bruxelles entre le conseil d'administration et le personnel était de décider quelles étaient les principales tendances ayant eu lieu dans le monde externe qui pourraient avoir un impact sur l'ICANN en tant qu'organisation au cours des prochaines années. Et nous avons échanger des idées et puis nous avons essayé de recueillir des informations concernant ces tendances pour les discuter avec la communauté. Cette analyse de tendance s'intégrera à nos processus de planification opérationnelle et stratégique habituels, mais les membres du conseil d'administration cherchent toujours à avoir l'avis de la communauté, donc c'est à la communauté de nous faire savoir à quoi il faut que l'on fasse attention ou quels sont les faits qui pourraient avoir un impact sur l'ICANN et sur la communauté. Une autre question que nous avons discutée était les différents types de bureaux de l'ICANN que nous avons autour du monde. En ce moment, nous avons des quartiers généraux à Los Angeles, différents bureaux centraux à Istanbul et Singapour et 7 centres de participation à Bruxelles, à Genève, à Washington, à Beijing, à Montevideo, Nairobi et Séoul. Certains de ces centres de participation, comme celui de Bruxelles et celui de Genève, par exemple, sont situés dans des villes où il y a beaucoup d'organismes et d'autres sont emplacés dans des villes où il y a une grande masse communautaire d'utilisateurs croissante. Bien sûr, il y a d'autres pays auxquels il serait peut-être raisonnable d'avoir des bureaux de participation et des centres de participation. Donc le conseil d'administration a demandé un document stratégique pour évaluer ces possibles villes, ces potentiels nouveaux bureaux, pour évaluer les buts et voir quelle serait la performance de l'organisation vis-à-vis de ces buts. Une autre question sur laquelle le conseil d'administration s'est penché au cours de cet atelier était la question des évaluations de priorité communautaire, le CPE, dans le cadre du programme des nouveaux GTLD. Et nous avons noté que la politique des nouveaux GTLD exige que les processus d'évaluation pour l'enregistrement de nouveaux GTLD doivent respecter les principes de la justice, la transparence et, bien sûr, l'accès égalitaire. Le processus d'évaluation n'est pas une évaluation d'une communauté, mais plutôt une évaluation du fait de savoir si une candidature spécifique devrait avoir la priorité vis-à-vis d'autres candidatures pour la même chaîne. Suivant le guide de candidature, on sait qu'un ensemble de critères ont été élaborés pour identifier les candidatures communautaires qualifiées et pour empêcher que des faux positifs, c'est-à-dire des candidatures qui ne sont pas vraiment d'une communauté, et la priorité pour un mot générique, pour l'enregistrer en tant que chaîne de GTLD, et pour qu'il n'y ait pas de faux négatifs, c'est-à-dire le manque d'attribuer un nom de domaine à une communauté qui a vraiment raison et qui a les fondements nécessaires pour obtenir cet enregistrement. Nous avons considéré également les résultats des enregistrements concernant des évaluations communautaires du point LLC, point INC et point LLP. Tout cela a été discuté dans le cadre de cet atelier et le comité de gouvernance du Conseil a été demandé de réévaluer les demandes de réexamen à la lumière des résultats du panel IRP qui s'est penché là-dessus, et surtout de reconsidérer les aspects de justice et transparence de ces résultats du processus CPE. Le conseil d'administration a également demandé à un cabinet tiers de réviser le processus à travers lequel le personnel de l'ICANN a interagi avec le fournisseur de CPE en termes généraux et de manière spécifique en ce concernant les rapports du CPE qui ont été publiés par le fournisseur de CPE. Ayant revu le processus de révision indépendante de Dot Registry dans sa déclaration finale, le conseil d'administration révise en ce moment les demandes de réexamen actuelles liées au processus CEP concernant la justice et la transparence avant de prendre des décisions finales. Cela dit, je vais donner la parole à la personne suivante. C'est David Olive qui va nous présenter la mise à jour de politique. David Olive, au micro. Merci, Bruce. Je présenterai une mise à jour sur les activités d'élaboration de politique de ce dernier trimestre. Comme vous saurez, le travail d'élaboration de politique de l'ICANN lié aux fonctions de coordination technique sont formés et peaufinés par la communauté de l'ICANN à travers ces trois organisations de soutien et reçoivent l'avis de 4 comités consultatifs à travers un processus multipartite ascendant, ouvert et transparent. D'autres organisations politiques ou techniques de l'Internet participent également à l'élaboration de politiques, par exemple l'IETF et les différents registres Internet régionaux. La mise à jour de politique d'aujourd'hui abordera l'organisation de soutien au nom générique, l'organisation de soutien au nom géographique, l'organisation des ressources de numéros et l'organisation de soutien d'adressage pour vous donner une idée plus claire des différentes activités d'élaboration de politique. Mon collègue Adiel présentera ces deux derniers groupes. Comme vous voyez, l'organisation de soutien au nom générique, ou GNSO, apparaît ici sur l'écran. Outre les questions énumérées sur cette diapositive, des travaux liés à la mise en œuvre de la transition finale, des propositions de transition finale du groupe de travail intercommunautaire sur les fonctions de nommage ont été conclus. Les mesures qui ont été prises comprennent la désignation d'un représentant provisoire de la GNSO au sein de l'organe de gestion de la communauté habilitée et l'approbation d'agents de liaison et de membres du comité permanent de clients. En outre, la piste de travail numéro 2 du groupe de travail intercommunautaire sur le renforcement de la responsabilité de l'ICANN est en cours, avec 9 sous-groupes qui se penchent sur différents sujets. Dans le premier trimestre, le conseil de la GNSO a validé la demande budgétaire du CCWG responsabilité et les processus de contrôle de coûts, a approuvé les modifications proposées aux procédures opérationnelles de la GNSO liées aux élections et aux motions du conseil, a adopté la révision du communiqué du comité consultatif gouvernemental pour leur présentation au conseil d'administration de l'ICANN et a adopté la charte du groupe de travail de révision de la GNSO qui a été demandé d'élaborer un plan de mise en œuvre pour les recommandations de révision de la GNSO qui ont été adoptées par le conseil d'administration de l'ICANN. La GNSO a en ce moment 11 processus d'élaboration de politique dans les différentes étapes du cycle d'élaboration de politique. Les questions abordées en ce moment sont les procédures pour des séries ultérieures de nouveaux GTLD, la révision de tous les droits, des mécanismes de protection de tous les droits, les RPM, dans tous les noms de domaines géographiques de premier niveau, des services de répertoire d'enregistrement de nouvelle génération qui remplaceront le RUIS et l'utilisation des mécanismes de droit curatif pour protéger les noms des OIG et des OING, donc organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales. La CCNSO continue de travailler sur la mise en œuvre de la transition du rôle de supervision de YANA et des propositions de responsabilité de l'ICANN, ce qui a résulté à l'adoption de nouvelles directives internes et à la mise à jour des directives existantes. La CCNSO a sélectionné et désigné des membres au sein du comité permanent des clients, dans le comité de révision de l'évolution de la zone racine et des représentants du comité administratif de la communauté habilitée. Dans l'avenir, le Conseil s'occupera également de la sélection et la désignation de membres au sein des équipes de révision spéciale. Le groupe de travail responsable d'élaborer ces directives se centrera maintenant sur les aspects spécifiques de la CCNSO pour ce qui est des mécanismes de la communauté habilitée. En outre, des activités liées du groupe de coordination interne de la CCNSO ont été conclues. En ce concernant le travail de politique, une fois la période de consultation publique finie, le groupe de travail de la CCNSO concernant le panel de révision du processus prolongé des chaînes portant à similitude est en train de conclure ses travaux et j'espère pouvoir présenter une version préliminaire à la communauté lors de la réunion d'Hyderabad. Finalement, une fois que la transition du rôle de supervision de YANA aura entré en vigueur, le centre se penchera sur l'élaboration d'une nouvelle politique de la CCLSO pour le retrait de CCTLD, un processus clé pour lequel il n'existe pas de politique en ce moment. Cette initiative d'élaboration de politique se combinera avec l'élaboration d'une politique pour un mécanisme de révision concernant les décisions liées à la délégation, la révocation, le transfert et le retrait de CCTLD. vu que ce mécanisme de révision a été explicitement inclus des propositions de transition de la supervision de l'ICANN et de la proposition de responsabilité de l'ICANN, l'élaboration d'une telle politique est prioritaire. Le rapport thématique devrait être disponible et présenté à la communauté avant la réunion d'Hyderabad. Et à cette réunion, le conseil de la CCNSO discutera probablement du lancement d'un ou deux PDP pour trouver une manière de mieux structurer le PDP. Cela dit, je vais maintenant donner la parole à Adel Akplogan qui va nous présenter la deuxième partie de ce point de l'ordre du jour. Adel Akplogan au micro. Merci David. Je présenterai rapidement la mise à jour de l'organisation des ressources de numéros et de l'organisation de soutien à l'adressage. L'organisation de soutien à l'adressage a récemment désigné Maemura Akinori en tant qu'administrateur du conseil d'administration de l'ICANN. Son mandat commencera à la fin de la 57e réunion publique de l'ICANN. Le processus par lequel l'ASO désigne ses membres fait l'objet d'une révision à l'heure actuelle, surtout pour assurer que le processus soit mieux conformé au statut constitutif de l'ICANN. Depuis le 1er octobre, la transition est en vigueur, ce qui veut dire que les nouvelles conventions de service entre l'ICANN et les RIR sont également en vigueur. D'autre part, le comité de révision des services de numéros de NIANA, d'attribution de numéros de NIANA, a été créé pour garantir que l'opérateur des services d'attribution de numéros de NIANA maintienne le niveau de service au niveau accordé. Quant à l'organisation de ressources de numéros, et toujours dans le cadre de cette transition, la NRO discute en ce moment avec d'autres communautés opérationnelles des droits de propriété intellectuelle de NIANA et de leur transfert au trust de l'IETF. Les registres Internet régionaux ont conclu des contrats qui seront mis en œuvre par la suite. Toutes ces informations sont disponibles au public et vous pouvez y accéder à partir des liens qui sont fournis dans cette présentation. Comme vous savez, tous les RIR travaillent sur des politiques de gestion de numérotage et échangent à travers des listes, mais également lors de différentes réunions régionales. Nous vous invitons et encourageons à participer à ces réunions régionales et à contribuer aux politiques de gestion des services d'attribution de numéros. Je vais maintenant donner la parole à Teresa Swinehart qui va nous donner la mise à jour de gestion.
Merci Adiel. Teresa Swinehart au micro. Comme il a été mentionné, je vais vous donner une petite mise à jour sur le dernier trimestre au nom de l'équipe exécutive et je vais donc parler des sujets que vous voyez à l'écran. Comme vous l'avez entendu dire, il y a une étape clé qui a été accomplie au dernier trimestre à l'expiration du contrat entre l'ICANN et la NTA. L'ICANN et les différents groupes de parties prenantes ont travaillé sans relâche pour s'assurer que toutes les tâches de mise en œuvre nécessaires aient été accomplies, de manière à ce que le contrat puisse arriver à échéance le 30 septembre de cette année. Vous avez déjà entendu parler de la plupart de ces points tout à l'heure dans la présentation, donc je ne vais pas me répéter ici. Les propositions renforcent le modèle multipartite existant de l'ICANN et visent également à améliorer la responsabilité de l'ICANN. Les améliorations incluent l'habilitation de la communauté mondiale de l'Internet en cas de désaccord pour qu'il y ait un recours direct en cas de désaccord avec les décisions prises par l'organisation de l'ICANN ou par le Conseil. Maintenant, regardons un petit peu les chiffres de l'IANA entre le 1er et le 30 septembre. Au cours du premier trimestre, l'ICANN a traité 480 demandes liées au domaine, 969 demandes liées au registre de paramètres de protocole, 3 demandes reliées au nombre et 322 requêtes générales. Ensuite, nous allons regarder un petit peu comment l'ICANN se prépare à lancer ou à mettre à jour la clé de signature de clé du DDSEC de la zone racine. Notre bureau technologique a beaucoup travaillé à la sensibilisation par rapport à ce processus critique. Au cours du dernier trimestre, l'équipe a donné 7 présentations lors de rassemblements dans le monde entier afin de minimiser le risque d'une perturbation du DNS. Le travail continue afin de développer des indicateurs pour la santé des technologies, des identificateurs. Au mois dernier, il y avait un atelier à Washington DC pour parler de ces indicateurs. Les résultats de cet atelier seront publiés sur notre site web très prochainement. Lorsque vous regardez la diapositive, vous voyez qu'il y a davantage d'activités de prévues au cours du dernier trimestre. L'organisation se focalise sur son évolution de manière à devenir plus efficace. Et nous mettons également en œuvre et mettons à jour nos systèmes et nos outils. Nous avons pratiquement terminé le site web du GAC pour un lancement bêta au prochain trimestre. Il remplacera le site Wiki actuel. Ce site est le premier à exploiter notre système de gestion de contenu web qui nous fournira des avantages divers de manière à faciliter l'accès mobile et autres. Nous préparons à lancer notre plateforme de planification de ressources d'entreprise qui devrait se faire à la fin de cette année, ce qui nous permettra d'aider de manière plus efficace à augmenter nos capacités de signalement et à réduire le travail manuel pour l'organisation. Ceci améliorera la transparence de l'organisation. Un système de surveillance de la convention de service est également en cours de développement comme outil de manière à mesurer la mesure de la performance des registres de GTLD pour savoir s'ils sont conformes à la spécification 10. Nous allons maintenant considérer les métriques de performance. Notre programme d'audit de conformité contractuelle se poursuit. L'ICANN surveille toujours les 18% restants de bureaux d'enregistrement entre le 14 septembre 2015 et à partir du 17 mai 2016, 80% ont reçu un rapport d'audit, aucune défaillance. En termes de tendance, nous avons vu une augmentation de 30% dans le volume total des plaintes reçues par rapport au quatrième trimestre de l'année dernière. Ceci est principalement dû au volume de signalement supplémentaire du système de signalement de l'exactitude du RUIS. Même si le volume a accru de 30%, le taux de clôture et les délais n'ont pas été affectés par rapport au dernier trimestre. Pour davantage d'informations, vous pouvez vous rendre sur le rapport de conformité contractuelle trimestriel publié sur l'ICANN.org. Maintenant, passons à la division des domaines mondiaux. Il y a eu 135 nouveaux GTLD délégués lors du dernier trimestre pour un total de 1186. Nous avons également signé 4 contrats de registre pour un total de 1239 contrats. En ce qui concerne les ensembles conflictuels, 218 sur 233 ont désormais été résolus. Sur les 218, seulement 15 résolus l'ont été par le biais d'une enchère de dernier recours, ce qui a généré un produit net d'un peu plus de 233 millions. Alors je voudrais maintenant rectifier quelques idées erronées qui demeurent par rapport à ces produits des enchères. Tout d'abord, les produits générés des enchères de dernier recours sont séparés, ne font pas partie du budget opérationnel de la CAN. Deuxièmement, la communauté multipartite mettra au point des recommandations sur le processus de distribution de ces produits. Une équipe de rédaction est en train de travailler à une charte sur un groupe de travail intercommunautaire qui créera des recommandations à soumettre au Conseil. Comme nous l'avons déjà dit, plusieurs révisions de programmes sont en cours, dont la révision CCT qui se focalise sur la concurrence, la confiance et le choix des consommateurs. Certaines activités soutiennent les efforts qui ont eu lieu au dernier trimestre, y compris la publication du questionnaire de titulaire de nos deux domaines qui a été effectué par Nielsen. Les résultats du questionnaire ont montré une stabilité continue dans tous les noms de domaines, dans tout l'ensemble des noms de domaines. Deuxièmement, commande d'un rapport pour essayer de comprendre pourquoi il n'y a pas eu davantage de candidats qui se sont présentés des régions mal desservies. Pour les nouveaux GTLD, ensuite publication d'une synthèse des commentaires publics sur la révision indépendante des services du centre d'échange pour les marques. l'ICANN continue de travailler à l'établissement d'un indice de santé du marché des GTLD. Nous avons publié une version bêta de l'indice de santé du marché des GTLD en juillet. Nous allons avoir différentes séances lors d'ICANN 57 pour analyser la conclusion de ces rapports. En ce qui concerne le dernier trimestre, une synthèse de commentaires publics en ce qui concerne les amendements proposés au contrat de registre de base des GTLD a été publiée. Ces commentaires sont maintenant pris en considération par l'ICANN et le groupe de travail des parties prenantes des opérateurs de registre donc inclut un mécanisme par lequel l'ICANN et le groupe des représentants des opérateurs de registre peuvent de manière régulière discuter des révisions potentielles au contrat de registre. Par ailleurs, nous avons ouvert un commentaire public sur un cadre de travail pour la sortie des étiquettes de caractère au deuxième niveau, de manière à éviter les confusions. Par ailleurs, il y a eu un appel à volontaires pour former une équipe de révision de mise en application du processus de développement de politique relative aux questions d'accréditation des services d'anonymisation et d'enregistrement fiduciaire. En ce qui concerne les noms de domaines internationaux, nous avons créé une version bêta d'un ensemble d'outils de règles de génération d'étiquettes afin d'aider les panels de script pour un Internet multilingue. Finalisation des règles de génération d'étiquettes de script Khmer et ouverture d'une période de commentaires sur une proposition de règles de génération d'étiquettes de zone racine pour le script géorgien. Ensuite, les tendances relatives au volume de dossiers correspondent au rapport des dossiers en cours et des dossiers résolus. Les arriérés restent stables. La fréquence de statut mesure la rapidité à laquelle nous répondons à nos clients après avoir reçu un message de leur part. Notre objectif est de répondre en 7 jours dans 80% des cas. L'ICANN a dépassé cette cible de niveau de service au cours du trimestre puisque nous avons répondu à 88% des cas dans cette fenêtre de 7 jours. La cible de temps de résolution, c'est le temps qu'il nous faut pour résoudre une requête. Et notre objectif est de 80% des cas résolus en 7 jours. Nous avons dépassé cette cible au cours du dernier trimestre. Environ 94% des cas ont été résolus dans la fenêtre des 7 jours. Passons maintenant à la mise à jour sur l'engagement. Ce trimestre a été très actif et très important en matière d'engagement. Les événements qui sont présentés à l'écran sont un échantillon des activités relatives à l'engagement. L'ICANN continue de participer dans des dialogues sur la gouvernance de l'Internet et sur l'évolution de l'écosystème de gouvernance de l'Internet. Par exemple, le Forum sur la gouvernance de l'Internet du groupe consultatif multipartite, le MAG, et les consultations ouvertes, les réunions de préparation régionale sur l'Assemblée mondiale sur la normalisation des télécommunications à Strasbourg. L'ICANN continue également à soutenir les forums de gouvernance Internet au niveau régional et international. Lors du dernier trimestre, ceci a compris un travail de préparation pour l'IGF mondial ainsi qu'un soutien des différents IGF en Ouganda, au Danemark, en Géorgie et en Allemagne. En ce qui concerne l'engagement des parties prenantes au cours des derniers trimestres, il y a eu 150 activités d'engagement régional et le tableau à l'écran divise le volume par région. Dans le cadre du nouveau format de cet appel, comme il a été mentionné tout à l'heure, nous allons maintenant entrer dans les détails de ce qui se passe dans la région Océanie et Asie-Pacifique. Et je vais donc passer la parole à Jia Hong, qui est vice-présidente et directrice générale d'Asie-Pacifique, du Bureau de liaison d'Asie-Pacifique. Merci beaucoup, Teresa. Merci à tous de me donner cette opportunité de vous faire part de certaines mises à jour pendant cet appel trimestriel qui donc a lieu à une heure propice pour le fuseau horaire d'Asie-Pacifique. D'ailleurs, c'est au cours de ce créneau horaire que nous tenons nos webinaires et nos conférences dans l'espace APAC. Alors, je vais vous parler de deux choses. Premièrement, du bureau de liaison d'Asie-Pacifique de l'ICANN, APAC, et de l'engagement de la communauté dans la région APAC. Un des bureaux de liaison de l'ICANN, le bureau de l'APAC, a été établi a été mise en place en août 2013 et nous venons de célébrer notre troisième anniversaire. Au cours de ces trois années, le bureau de liaison de la PAC, qui est composé de personnel au Singapour et autre part dans la région, comprend maintenant 28 personnes. Nous occupons de 10 fonctions. Nous avons une équipe politique qui donc travaille sur place au bureau de liaison, mais qui également dessert toute la région en collaboration avec le bureau. La PAC est un point de focalisation pour les parties prenantes de la PAC et travaille à développer des relations durables avec les différentes parties prenantes. Nos fonctions ont pour but de servir les différents groupes de parties prenantes, les opérateurs de registre, les bureaux d'enregistrement et de répondre aux demandes des titulaires de noms de domaine. Nous essayons de collaborer avec la communauté régionale afin de faciliter sa participation et sa contribution à l'ICANN. En octobre 2015, le bureau de Singapour est passé à un bureau permanent à South Beach Tower. Ce déménagement réaffirme l'engagement de l'ICANN à la globalisation et à la stabilisation à long terme. Ce bureau nous permet de nous organiser en tant que communauté et de présenter également des ateliers de renforcement des capacités. Je vais maintenant parler de notre engagement sur deux points. Notre participation dans la région à l'ICANN, qui est en augmentation, et la contribution de la région à un écosystème d'identificateurs uniques, plus sûrs, plus stables, plus résilients. Par le biais de programmes de relations avec les parties prenantes et d'engagement, la participation de la communauté APAC dans les processus de développement de politique de l'ICANN, ou PDP, s'est accrue. Depuis 2013, il y a eu 5 PDP sur différents sujets, et si on regarde le tableau, certes les nombres fluctuent étant donné l'intérêt, mais le pourcentage a augmenté. Les efforts qui ont contribué à l'augmentation de la participation de la communauté APAC incluent la sensibilisation, les programmes de renforcement des capacités et il faut dire que la représentation de la PAC au sein des activités sur la transition ont été importantes. L'amélioration de la responsabilité a été très importante en termes de participation pour la PAC. Alors, en ce qui concerne la participation des gouvernements, le bureau de liaison de la PAC a des points de contact bien établis avec les gouvernements dans la région. En ce qui concerne la facilitation de la participation au GAC, il y a également eu des progrès, comme vous pouvez le voir sur la diapositive. Autre point important, c'est notre participation à l'ATLARGE, qui a également augmenté. Vous pouvez le voir sur la diapositive. L'industrie du DNS dans la région de la PAC est également en croissance. Depuis les premiers domaines de premier niveau générique en octobre 2013, 177 nouveaux GTLD ont été délégués dans la région APAC, ce qui signifie une augmentation du nombre d'opérateurs de registre dans la région. Les nouveaux bureaux d'enregistrement accrédités sont passés de 159 en août 2013 à 228 en juillet 2016. Soutenir un écosystème sain, sécurisé, stable et résilient d'identificateurs uniques est un objectif stratégique pour la CAN. Cette diapositive vous montre certains des grands points de la contribution de la communauté de la PAC dans ce domaine. La CAN est l'opérateur du serveur de racine L et ceci est critique pour la résilience du système de nom de domaine. Depuis août 2013, nous avons vu une croissance de 55% dans les instances de racine L dans la région APAC. Les ajouts les plus récents sont au Myanmar et en Micronésie. Le déploiement des extensions de sécurité du DNS, DNSSEC, est important afin de sécuriser l'infrastructure de l'Internet en protégeant les données du DNS. Vous le voyez sur la diapositive, au cours des trois dernières années, six domaines de premier niveau géographique au CCTLD ont déployé le DNSSEC, ce qui veut dire que nous avons maintenant un total de 21. À droite, sur la diapositive, vous voyez que le renforcement des capacités, surtout pour la communauté technique, contribue à l'écosystème d'identificateur unique. Il y a énormément de domaines dans ce domaine, comme beaucoup des économies dans cette région diverses sont en cours de développement. Nous avons beaucoup travaillé pour essayer de répondre à cette demande et au cours des 3 années, avons effectué 170 événements de formation relatifs au DNS sur 58 lieux dans 27 économies. Ces activités sont effectuées soit au niveau régional sous forme d'ateliers, soit à la demande de parties prenantes. Maintenant, pour ce qui est du trimestre qui vient de se dérouler, nous avons participé au forum CTO qui a rassemblé des décideurs en matière de politique de haut niveau, des réglementateurs et des leaders dans l'industrie. Lors de la cérémonie d'inauguration du forum, notre vice-président sur l'engagement des parties prenantes, Savé, a fait passer un message au nom de notre CEO Gran pour encourager les participants à appuyer les activités futures de l'ICANN. Lors d'une séance sur la gouvernance inclusive d'un Internet multipartite, Savé a expliqué le modèle de prise de décision basé sur le consensus de l'ICANN et l'auditoire a parlé de la manière que l'on pouvait avoir pour assurer la participation des différentes parties prenantes dans le Pacifique. Les récapitulatifs de l'ICANN sont des séances de débriefing pour la communauté locale sur les réunions ICANN les plus récentes. Ceci est très utile pour les membres de la communauté qui ne peuvent pas participer aux réunions de l'ICANN. Celles-ci sont effectuées dans la langue locale. Lors de ces séances, le personnel du bureau de liaison de la PAC donne une mise à jour sur la réunion ICANN la plus récente et les membres de la communauté locale qui ont participé aux différentes sessions vont faire part des différentes leçons qu'elles ont tirées des discussions clés. Cela nous permet également de souligner toutes les questions qui sont particulièrement pertinentes. Lors de ce trimestre, les séances de récapitulatif sur la réunion d'Helsinki ont été organisées en Chine et au Japon. J'aimerais d'ailleurs utiliser cette opportunité pour remercier nos partenaires locaux, China Academy of ICT et Japan Network Information Center. Nous espérons pouvoir participer avec vous à d'autres récapitulatifs ou readouts dans d'autres lieux de la région APAC. J'ai déjà mentionné le renforcement des capacités. Pour aider nos parties prenantes à augmenter leurs capacités techniques, à contribuer à un écosystème plus sûr, plus stable et plus résilient d'identificateurs uniques, en ce qui concerne le renforcement des capacités, nous avons une académie sur la gouvernance de l'Internet en Asie-Pacifique. Nous avons collaboré avec KISA, qui est donc une agence de sécurité de l'Internet en Corée, dans le cadre de notre coopération et de notre protocole d'entente avec KISA. Nous avons donc travaillé avec APNIC, nous avons travaillé avec l'Internet Society APAC Bureau, NetMission et le domaine de premier niveau d'Asie-Pacifique. L'Académie a pour objectif de modeler la prochaine génération de leaders de l'Internet. 40 jeunes sur 120 de la région ont été sélectionnés pour ce programme rigoureux de 5 jours qui a traité de différents sujets tels que l'infrastructure de l'Internet, l'écosystème de gouvernance de l'Internet, les nouvelles technologies et d'autres sujets relatifs à la Cannes. Les participants ont également participé à une conférence à Cannes simulée. Les participants ont rempli 25 heures de cours en ligne à Cannes et à SOC. Et ceci représente un prérequis pour participer à l'Académie en personne. Nous pensons voir certains de ces anciens de l'Académie participer à différentes réunions de l'ICANN. Et je dois dire que Pour certains, ils sont ensuite sélectionnés pour participer au programme Next Gen de l'ICANN. En juillet, nous avons effectué un atelier sur le DNSSEC à Hanoï au Vietnam. Cet atelier de 3 jours, très pratique, a été effectué en partenariat avec l'APNIC et le VNNDC. Nous avons également participé à un atelier du DNSSEC avec APNIC et d'autres entités, comme vous le voyez sur la diapositive. Alors, encore un dernier domaine dont j'aimerais parler, c'est donc l'espace APAC. L'espace APAC, qui est organisé en marge des réunions de l'ICANN, est une séance communautaire d'organisation de discussions sur les questions relatives à l'ICANN au niveau régional. En consultation avec la communauté, nous nous sommes mis d'accord pour accroître la fréquence des séances de l'espace APAC. La conférence commence par une présentation du personnel sur les questions relatives aux politiques, suivie par une discussion menée par la communauté. Ceci aide les participants à augmenter leur compréhension des différents problèmes et également à accroître leur confiance de manière à mieux faire part de leur point de vue. Cela aide nos membres de la communauté à mieux participer de manière plus active à l'ICANN. La conférence web la plus récente a eu lieu en septembre et le sujet dont nous avons parlé, c'est donc le PDP sur les procédures ultérieures de nouveau GTLD. Nous allons continuer nos discussions sur ce sujet lors de la séance en face-à-face de l'espace APAC à ICANN 57 à Hyderabad. Voilà pour cette partie sur la mise à jour de la PAC. Merci pour votre attention. Je vais maintenant passer la parole à Xavier pour la mise en jour financière. Merci. Xavier Calvez au micro. Merci donc, Jarong. Je suis votre directeur financier et je vais vous présenter des estimations financières pour le premier trimestre de l'exercice 2016, donc qui couvre juillet 2016 à septembre 2016. Nous sommes en cours de finalisation des résultats du mois de septembre et les informations présentées reflètent des estimations de données pour le premier trimestre 2016 par comparaison à notre budget de l'année courante pour ce trimestre et par rapport également aux données trimestrielles de l'année dernière. Nous allons commencer par un aperçu général des données financières opérationnelles de l'ICANN pour le trimestre. D'une manière générale, la position financière des opérations de l'ICANN est en excès de 5 millions de dollars par rapport à un excès budgété d'un million. Cet excédent supérieur, supérieur à ce qui était planifié vient des dépenses de base qui ont été inférieures au budget de 5 millions de dollars et des coûts supérieurs aux prévisions pour les dépenses relatives à la transition. Les financements sont conformes aux cibles. Nous allons donc passer en revue cette position financière au cours des diapositives à venir. Le financement de l'ICANN nous vient principalement de deux moteurs. Tout d'abord, le nombre d'enregistrements annuels de noms de domaine qui entraîne des frais de transaction. Et deuxièmement, le nombre de parties contractant avec l'ICANN qui entraîne des frais fixes annuels collectés des opérateurs de registre et des bureaux d'enregistrement. Toutes les catégories de financement sont cohérentes par rapport aux attentes pour l'instant, par rapport à notre exercice. Le financement est supérieur à celui de l'année dernière, ce qui est principalement dû au nombre supérieur de domaines de premier niveau en fonctionnement. Nous allons maintenant nous concentrer sur les dépenses de base du premier trimestre par rapport au budget et par rapport à l'année dernière. Notre principale catégorie de dépenses, c'est les coûts du personnel, à gauche sur ce graphique, qui représente environ la moitié de nos dépenses totales. Les coûts en personnel sont en dessous du budget, ce qui est dû à des effectifs moyens pour le trimestre de 337, ce qui est donc inférieur au budget de 7%. Les coûts de déplacement devraient également être inférieurs au budget, ce qui est dû au nombre inférieur de voyages entrepris et au coût inférieur par voyage par rapport à ce qui était prévu. Les dépenses en services professionnels, en administration, en immobilisation, tout ceci reflète des différences dans les délais par rapport au plan et donc se retrouve en dessous du budget. Ce tableau vous montre les dépenses estimées pour le projet de transition IANA pour ce trimestre par catégorie de coûts. Les dépenses au cours des 3 mois passés étaient principalement composées du soutien du personnel et des frais juridiques pour appuyer la préparation de la mise en œuvre intensive, y compris la création de l'entité PTI et la rédaction de différents contrats. Nous allons maintenant passer en revue les données financières du programme des nouveaux GTLD pour le trimestre. Les dépenses totales sont en dessous du budget, ce qui est principalement dû à un nombre inférieur de candidatures retirées par rapport à ce qui avait été prévu pour le trimestre. Les autres coûts sont cohérents par rapport au budget. Considérons maintenant le statut des fonds de placement. Les fonds de placement des opérations de la CAN à gauche reflètent une augmentation principalement due aux encaissements supérieurs du financement du trimestre précédent et à des dépenses inférieures pendant le premier trimestre de l'exercice. La réduction du fonds de réserve pendant le trimestre correspond au financement des dépenses de la transition du rôle des fonctions IANA qui ont été encourues pendant la deuxième moitié de l'exercice 2016. Les fonds liés au programme des nouveaux GTLD, à droite, incluent les fonds des nouveaux GTLD qui représentent la partie des frais des candidatures encore non dépensés et le produit des ventes aux enchères. Les fonds des nouveaux GTLD ont baissé suite aux dépenses d'évaluation encourues et aux retraits de candidatures remboursées. Le produit de la vente aux enchères a augmenté suite au produit de la vente aux enchères du point OM collecté au début du mois d'août. Ceci conclut le point financier pour le trimestre. Il y a davantage d'informations qui sont disponibles sur notre site web. Je vais maintenant repasser la parole à Brad qui va s'occuper des questions-réponses. Merci Xavier. Je vous rappelle que si vous êtes en ligne et que vous avez une question, vous pouvez donc poser votre question sur le chat dans la petite fenêtre. Sinon, par téléphone, vous allez appuyer sur dièse 3 et vous pourrez poser votre question. Alors, première question pour Adiel, vice-présidente de l'engagement technique. Est-ce que la révision indépendante de l'ASO sera le sujet d'une demande de proposition de la CAN et si, est-ce qu'on pourra en faire la publicité? Alors, donc, cette question est pour de Michel Scott-Tucker pour le secrétariat du GAC à CIG. Alors, le processus de révision fait partie de la révision organisationnelle de l'ICANN et conformément au statut, ceci est délégué au NRO. Alors, en ce qui concerne la transition IANA, le comité de révision des services, ce comité a déjà été mis en place. Et donc la révision sera annuelle et régulière. Merci. Merci Adiel. Alors, il y a plusieurs questions qui ont été soumises par Nandita Singh, qui est éditrice de Voice and Data à Bangalore et qui est journaliste. Première question pour notre président. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous donner des détails sur le modèle de gouvernance de l'Internet vers lequel l'ICANN évolue et quel est l'avenir de l'Internet? Que faudra-t-il pour que la CAM puisse le constituer? Il y aura nos micros. Merci beaucoup pour cette question. Alors, je crois qu'il est important de reconnaître que les statuts de l'ACAN, d'une certaine manière, préparent l'avenir. Cela nous donne un mandat de travail pour la gouvernance de l'Internet. Et je crois que le modèle de gouvernance de l'Internet sera aidé par les nouveaux statuts. Et je crois que si j'avais été là il y a 10 ans, j'aurais peut-être fait un petit peu les choses différemment. Parce qu'en fait, l'Internet, eh bien, il dépend des utilisateurs de l'Internet au niveau mondial d'en faire ce qu'ils souhaitent. La communauté de l'ICANN essaye d'appuyer ceci. Et donc, je crois que ce qui est important, c'est de continuer de dialoguer sur ce sujet de manière à voir ce que nous pouvons faire pour vraiment répondre aux besoins des utilisateurs de l'Internet.
Brad, au micro. Merci. Question suivante pour vous également. Donc, y a-t-il un impact réel sur l'ICANN à partir de ce fait de ne plus avoir la supervision du gouvernement des États-Unis? Yoran prend la parole. C'est une question que nous posent souvent les utilisateurs. Mais en fait, l'ICANN fait ce qu'elle fait depuis 18 ans. Et la supervision maintenant est passée du gouvernement des États-Unis à la communauté de l'ICANN. Cela veut dire qu'on a ajouté beaucoup de freins et contrepoids, beaucoup de mesures et de mécanismes de transparence. Donc bien que l'organe superviseur ait changé, et c'est positif puisque maintenant c'est la communauté qui va gérer le processus, mais en fait, l'ICANN va toujours devoir être responsable. Brad prend la parole. Merci. Question suivante est pour Jia Rong, directeur général de notre centre de participation en Asie-Pacifique. La question dit, dans le cadre du modèle de gouvernance Internet actuel de l'ICANN, quel est le rôle et la représentation générale d'Asie-Pacifique et de l'Inde et de la Chine spécifiquement? Jia Rong prend la parole. Merci. En ce moment, le modèle de gouvernance Internet de l'ICANN suit le modèle que nous avons toujours eu. Et on ne prévoit pas qu'il y ait de modifications à ce niveau-là. Quant à la représentation et la participation de l'Inde, de la Chine et de l'Asie-Pacifique en tant que région en général, j'ai déjà dit que la tendance générale voit davantage de participation de la communauté régionale au sein de l'ICANN, ce qui est très satisfaisant pour nous. Vous demandez si on peut faire davantage? Eh bien, nous travaillons sur place, sur le terrain, avec les participations, les participants, pour les inviter à rejoindre l'ICANN et pour essayer de les aider à comprendre le modèle multipartite de formation de consensus et les différents mécanismes de gouvernance suivis par l'ICANN. Ce modèle a déjà ses propres contrôles et les discussions varient selon les sujets. L'intérêt de la communauté accompagnera donc ces différents sujets et pourrait varier. Mais notre idée est de toujours encourager les parties prenantes à participer, à discuter des questions de l'ICANN et à pouvoir représenter leur communauté et exprimer leur avis. C'est sur quoi nous travaillons en ce moment et nous espérons pouvoir atteindre davantage de personnes pour les inviter à participer à l'ICANN aussi. Brad prend la parole. Merci Jérôme. J'ai deux autres questions pour vous. D'une part, on nous demande comment communiquez-vous avec les différentes parties prenantes de partout dans le monde, quel est le type de participation que l'Inde a eu de par le passé et quels sont les changements auxquels on s'attend au niveau de la participation au sein de l'équipe de direction de l'ICANN. Sharon au micro, merci. J'ai déjà parlé de notre travail avec les différentes parties prenantes, mais notre idée est de pouvoir aider les parties prenantes à comprendre et à savoir quelles sont les questions d'intérêt au sein de l'ICANN et de les inviter à participer aux discussions là-dessus. Vous me demandez quel a été le type de participation de l'Inde, par exemple. J'ai une collègue à Delhi qui travaille beaucoup pour pouvoir assurer que les rapports avec les parties prenantes en Inde soient très proches. Et il est difficile pour eux de pouvoir faciliter la participation de la population locale aux différents forums régionaux, par exemple. Mais je voudrais maintenant parler de comment faire pour pouvoir faire augmenter la participation. En Inde, en ce moment, nous sommes en train de travailler avec le gouvernement, ce qui est vraiment très important. Parce que l'Inde a des parties prenantes passionnées qui essaient de nous aider à pouvoir surmonter les difficultés locales pour pouvoir permettre à la communauté de participer. Donc pour nous, le défi à relever est de trouver le moyen d'intégrer ces parties prenantes à nos initiatives et de leur permettre de participer davantage au sein des différentes unités constitutives. Cela dit, je voudrais souligner le fait que le processus de transition renforce le processus multipartite et le modèle multipartite. Ce modèle augmente le potentiel de l'Inde de participer au sein de l'ICANN et cela est très important pour nous. Peut-être que David Olive pourrait nous expliquer un peu mieux la troisième question concernant les changements auxquels on s'attend au niveau de l'équipe de direction de l'ICANN. David Olive prend la parole. Merci Jérôme. J'ajouterai que quant à la participation de l'Inde, il y a de grandes délégations depuis la réunion de Dublin et à Marrakech. On a également vu cette tendance, ce qui est très encourageant. Ça nous montre qu'il y a beaucoup de personnes qui font partie des différents projets, des différentes initiatives en cours. Quant à la participation au sein de l'équipe de direction de l'ICANN, Jérôme expliquait le changement de centre de focalisation à partir de la transition et du travail au sein des différents groupes de travail. Eh bien, cela, en termes généraux, a fait augmenter la participation aux différents groupes et aux différents processus, surtout pour ce qui est de la GNSO et pour ce qui est du travail de politique que fait cette organisation de soutien. Donc, à mesure que nous avançons avec nos travaux au niveau des différentes stratégies régionales, nous voyons que les travaux de l'ICANN qui continuent suscite l'intérêt des personnes des différentes régions, surtout en Afrique, au Moyen-Orient, à partir du centre de participation d'Istanbul et en Asie, à partir du centre de participation de Singapour. Nous comptons continuer d'encourager la participation des parties prenantes de ces régions. Et nous aurons de plus en plus de processus de participation communautaire, puisque nous voyons qu'à partir de nos travaux dans ce sens, nous avons l'occasion et nous avons réussi à faire augmenter la quantité de participants. Donc voilà ce que j'avais à dire là-dessus. Brad White prend la parole. Merci David. On est un tout petit peu en retard, mais nous avons trois autres questions et par la suite, nous allons voir s'il y a d'autres personnes dans la liste d'intervenants. Si vous avez d'autres questions à poser qui ne sont pas répondues, vous pouvez les envoyer à engagement@ican.org. engagement@ican.org. On a maintenant une autre question pour Jiarong. Pourriez-vous nous présenter l'état de situation actuelle du programme des nouveaux GTLD en Inde? Jiarong au micro. Merci. En ce moment, le programme des nouveaux GTLD, comme je l'ai dit, on a 177 nouveaux GTLD qui ont été délégués dans la région. Mais sur ces 177, il y a 13 nouveaux GTLD qui correspondent à l'Inde. On a reçu 15 candidatures de la région, ce qui veut dire qu'il ne reste plus que 2 chaînes qui n'ont pas été déléguées pour l'instant. Quant à l'utilisation et à l'enregistrement de noms de domaine dans le cadre du programme des nouveaux GTLD, il reste beaucoup de travail à faire, mais nous sommes très optimiste par rapport aux possibilités d'en avant, surtout parce que l'Inde est une région croissante et qui est très active dans le cadre de la stratégie opérationnelle. Merci. Brad White au micro. Merci, Jarong. La question suivante est adressée à Nick Tomasso qui est connecté. Il est notre vice-président des réunions. Et la question dit, je vois que vous avez choisi Idermad pour la conférence ICANN 57. C'est un bon choix. Comment avez-vous trouvé cette ville? Quel a été le processus pour décider de tenir la réunion à Idermad? Nick Tomasso au micro. Merci. C'est une bonne question. La réunion de novembre 2016 était censée être tenue à San Juan, à Porto Rico. Et comme disait Bruce tout à l'heure, on a été forcé de reprogrammer notre réunion de novembre 2016 à cause du virus du Zika dans l'île et dans la région. Et on cherchait un nouvel emplacement et on a proposé au gouvernement de l'Inde de nous accueillir. Le gouvernement a accepté de manière très généreuse et ils nous ont proposé le centre de conférence international d'Hyderabad qui s'est avéré être un très bon centre de conférence et on espère vraiment vous voir là-bas. Brad prend la parole. Merci Nick. On a une question finale pour Joran Marby de Peter Green. La question dit, quand est-ce que l'administration de la communauté habilitée sera-t-elle mise en place? Yoren prend la parole. Merci. C'est une question très rapide à répondre parce que les désignations doivent être faites par la communauté et nous allons vous donner une mise à jour de l'état de situation de ces désignations d'ici peu, mais l'organe d'administration de la communauté habilitée se réunira d'ici peu et j'espère avoir d'autres informations à partager avec vous dans les meilleurs délais. Brad au micro, merci Yuran. Cela dit, nous allons conclure l'appel. S'il y avait d'autres questions qui étaient surgies à partir de ces questions ou auxquelles vous pensez par la suite, veuillez les envoyer à engagement@icann.org. Je remercie tous les participants et tous les présentateurs. Bonne journée ou bonne soirée, où que vous soyez. Voilà la fin de la conférence d'aujourd'hui. Merci d'avoir participé. Veuillez vous déconnecter à ce point-là.